Dans une France où la laïcité est sacro-sainte, où les églises chrétiennes ont parfois du mal à être entendues, difficile de prendre le pouls du vote chrétien lors des prochaines élections présidentielles. Le christianisme au quotidien est souvent celui des consciences, personnelles, privées, intérieures et discrets. Dans la variété des profils présidentiels, le chrétien fera son choix, c'est sûr, mais ce choix sera lui aussi panaché, comme nous l'explique Émile Poula. Historien et sociologue, membre fondateur du groupe de sociologie des religions, il est l'auteur de près de 30 ouvrages concernant principalement le conflit entre culture catholique et culture moderne. Avec la sagesse de ses 87 printemps, Émile Poula nous parle.
Sur ce sujet, les chrétiens sont extrêmement divisés. Vous voyez, un sondage du Figaro auprès de ses lecteurs estimait, par exemple, avec une très forte majorité, que la religion des candidats n'avait aucune importance ou aucune influence sur la campagne actuelle. Le chrétien, entre guillemets, a différents visages. Vous avez des chrétiens qui sont extrêmement différents, qui ont des positions extrêmement différentes. D'autre part, il y a une très longue tradition française dans un pays qui était quand même massivement de culture catholique pour séparer politique et religion. Un parti comme la Démocratie chrétienne ou la CDU, la DC, finalement n'a jamais eu de véritable audience en France en dehors de l'épisode du MRP, du Mouvement Républicain Populaire, vous voyez.
Donc il y a un particularisme tout à fait français sur ça.
Moi je trouve, oui. De la même manière d'ailleurs que les grands mouvements de masse comme on en trouve en Belgique, en Allemagne ou en Italie, en France, ça a toujours été très très faible. Les partis politiques ont très peu d'adhérents, les syndicats ont très peu d'adhérents. Je ne parle pas des mouvements d'action catholique qui aussi, par rapport à nos pays, aux pays voisins, avaient très peu d'adhérents. Il y a en France un individualisme très très ancien, très profondément marqué, qui fait que tout ça relève du quant à soi, de la conscience, du jugement personnel, de l'individu. Vous voyez, un catholicisme, un christianisme bourgeois, c'est-à-dire celui qui fait appel au libre examen, à la libre entreprise, enfin aux libertés de l'individu. Oui.
Alors justement, ce chrétien-là, est-ce qu'il est interpellé par des élections comme celle-ci? Est-ce qu'il va voter?
Ben écoutez, moi je pense qu'il a les mêmes problèmes que les autres. Est-ce qu'il va voter? Pour qui il va voter? Il a le choix, il a un large choix, au moins au premier tour, oui. Mais bien sûr qu'il va voter. Si vous voulez, je crois qu'on peut dire qu'en France, il n'y a plus d'électorat catholique, hein, ce qu'on appelait autrefois le vote catholique. Et d'ailleurs, la meilleure preuve, c'est que il y a déjà pas mal de temps que les évêques ne donnent plus de consignes de vote. Autrefois, il y avait toujours des consignes électorales. Voter pour le bon candidat, c'est un langage qui a complètement disparu. Et aujourd'hui, d'une certaine manière, il n'y a plus ni bon ni mauvais candidat, il n'y a plus que des candidats insatisfaisants. Inégalement, parce que leur profil est différent, mais comment dire, inégalement satisfaisant.
Donc il est difficile de répondre à cette question. Est-ce que le vote chrétien est aujourd'hui davantage pluriel, panaché qu'il ne l'était autrefois?
Ben écoutez, moi je pense que le vote chrétien a toujours été très panaché. La seule chose, c'est qu'on ne prenait pas en compte des catholiques ou des chrétiens qui se pensaient chrétiens mais qui n'étaient pas reconnus comme tels. Et il y a une phrase qui m'a toujours beaucoup, beaucoup frappé, que je cite souvent, elle est de Jules Ferry. Jules Ferry disait à sa femme en 1887, « Je ne dois pas oublier que je suis l'élu d'un département qui vote républicain, mais qui tient à ses processions et à ses reposoirs. »
Est-ce qu'aujourd'hui encore, cette phrase est d'actualité?
Je crois qu'elle est d'actualité, avec la différence, c'est que les chrétiens tiennent beaucoup moins à leurs processions et à leurs reposoirs, mais qu'en revanche, ils tiennent beaucoup, disons, à l'intimité de leur conscience. La foi, pour beaucoup de chrétiens, c'est affaire entre Dieu et moi. Une religion de la conscience, voyez-vous, beaucoup plus qu'une religion de l'institution ou d'appartenance à l'Église, oui.
Alors, est-il difficile justement pour les candidats à cette élection présidentielle d'interpeller le chrétien s'il a envie de le faire, et l'ont-ils fait aujourd'hui?
Bah, écoutez, à ma connaissance, aucun candidat actuellement n'a interpellé les chrétiens. Ils répondent simplement aux questions qu'on leur pose, soit par exemple sur leurs convictions personnelles, soit sur la place qu'ils entendent accorder aux problèmes religieux et aux institutions religieuses dans notre société.
Alors justement, est-ce que cette question de la place des églises et des religions dans la société, et donc la question aussi de la laïcité, sont des questions gênantes dans une campagne comme celle-ci?
Ben écoutez, apparemment non, et si j'étais méchant, je dirais pour une raison très simple, c'est que c'est une question qui est entourée de beaucoup de flou, de brouillard, à la fois chez les électeurs et à la fois chez les candidats. Il y a en ce moment une espèce de vulgate sur la laïcité, une espèce de pensée commune qui finalement montre surtout beaucoup d'inculture en la matière. Si vous me provoquez, je vous dirais qu'on se plaint beaucoup de l'inculture religieuse en France, mais je crois que l'inculture laïque est aussi égale.
Alors on est frappé par le fait que les églises chrétiennes et de très nombreux mouvements d'églises ont interpellé les candidats dans une démultiplication de questions et d'attentes.
Oui.
Est-ce que c'est pour mieux conjurer une sorte de doute, de pessimisme même d'être écouté?
Ben écoutez, moi je crois que ça fait partie de leur engagement, mais c'est un petit peu une poussière de questionnement par des mouvements qui finalement ne représentent pas grand-chose sur le plan des forces politiques, voyez. Je crois, si vous voulez, que c'est une manière d'affirmer une identité chrétienne dans un monde, si vous me permettez, post-chrétien, un monde qui s'est sécularisé et où finalement on s'aperçoit bien que dans le programme des candidats, ces questions-là tiennent peu de place. En revanche, il est vrai, alors là je crois qu'on est sur un terrain fondamental, il est vrai, si vous voulez, que concernant les questions d'éthique, de bioéthique, d'éthique sexuelle, d'éthique du mariage, etc., on est là sur un véritable clivage dans notre société.
Alors est-ce que ce scrutin présidentiel sera aisé pour un chrétien s'il tient compte justement de questions comme celles que vous venez d'évoquer, à savoir la défense de la vie, de la famille, de l'éducation, de l'écologie?
Bah écoutez, je ne crois pas être téméraire en affirmant qu'un catholique très convaincu, très pratiquant, attentif à ce que disent les papes, aussi bien Jean-Paul II que Benoît XVI, sur les problèmes de la vie, par exemple, je pense qu'il ne trouvera aucun candidat qui réponde à ses aspirations. Et que par conséquent, il choisira, j'allais dire, celui qui répond le moins mal.
Est-ce qu'aujourd'hui, un chrétien n'est pas comme tout le monde, un peu désabusé, perdu, donc face à des questions de société qui peuvent parfois le dépasser, et au raz-de-marée de nouvelles donnes culturelles qui posent en tout cas cette question des libertés modernes?
Vous avez posé parfaitement la question. Ce qui explique, si vous voulez, qu'un catholique hautement convaincu dans la ligne que nous avons dans la ligne pontificale ne peut pas se reconnaître dans la donne politique actuelle. Ce n'est pas entièrement nouveau par rapport au scrutin antérieur. La seule différence, c'est que nous sommes devant une société qui se libéralise de plus en plus, qui se sécularise de plus en plus, pour qui en particulier les problèmes de la vie, du mariage, de la famille, sont évidemment très très loin de la conception catholique qu'on peut se faire.
Et les bons tons, donc, que les candidats suivent, disons, le mouvement?
Si vous voulez, les candidats se montrent un petit peu opportunistes, perméables ou pragmatiques, appelez ça comme vous voulez, à cette ère du temps qu'on ne peut pas dire franchement catholique.
Émile Poulla, que voudriez-vous ajouter pour conclure ce regard chrétien sur cette échéance électorale?
Écoutez, moi je suis frappé de voir que nous sommes de toute évidence devant un renouvellement de génération. Pour la première fois, nous sommes devant ce qu'on pourrait appeler une génération d'après-guerre, une génération qui n'a pas connu la Deuxième Guerre mondiale. Nous sommes donc véritablement, nous entrons dans une nouvelle période avec des hommes ou des femmes plus jeunes, si vous voulez, à une époque où, je crois que c'est important à noter, la société ne devient pas plus religieuse, mais elle devient plus attentive à la place du fait religieux.
Merci à Émile Poulla qui vient de publier « Les diocésaines, République française, Église catholique, loi de 1905 et association cultuelle, le dossier d'un litige et de sa solution à la documentation française, un livre monument ».